FM 93.
7h presque 39. Vous avez probablement entendu parler hier des parents d'Alexandre Bissonnette. On les a vus pour la toute première fois, sauf si vous avez assisté au procès. Vous avez eu l'occasion de les observer dans la salle d'audience. Il faut savoir que Raymond Bissonnette a assisté aux représentations sur sentence de son fils depuis le tout premier jour. Sa mère est arrivée quelques jours plus tard. Elle n'était pas là durant les premiers jours. Mais moi, c'était la première fois que je voyais leur visage. C'était la première fois que j'entendais leur voix aussi. Les seules nouvelles qu'on avait eues des parents d'Alexandre Bissonnette, c'était un communiqué qu'ils avaient émis aux médias il y a de ça plusieurs mois. On n'avait ni leur voix, ni leur visage, mais on avait entendu leur sympathie à l'égard des victimes et des familles des victimes. C'était un communiqué qui était très, très sobre, mais très, très respectueux des victimes de l'attentat de la mosquée de Québec qui s'est produit en janvier 2017. Hier, c'était le dernier jour des représentations sur sentence pour Alexandre Bissonnette. Et c'est aussi ce moment-là où les parents d'Alexandre Bissonnette, c'est ce moment-là que les parents d'Alexandre Bissonnette ont choisi pour s'exprimer devant la caméra pour la première fois. Notre collègue Jonathan Bernard était sur place. On va avoir un extrait à vous faire entendre, mais pour nous expliquer puis nous décrire un petit peu comment ça s'est passé, on va parler à Jonathan à l'instant. Bonjour, Jonathan.
Salut, bon matin.
Alors, Jonathan, tu étais présent hier. J'imagine que c'est un moment qui était chargé d'émotions.
Oui, effectivement. Vous mentionnez qu'on avait appris la veille que les parents d'Alexandre Bissonnette étaient pour s'adresser à nous et ça s'est confirmé hier en matinée. Et finalement, ça s'est fait sur l'heure du midi. Ils sont donc descendus dans l'agora du Palais de justice de Québec, la grande place centrale. Et c'est à cet endroit que Raymond Bissonnette, le père d'Alexandre Bissonnette, a pris la parole pour la lecture d'une déclaration. Il était accompagné de la mère d'Alexandre Bissonnette, sa conjointe, Manon Marchand. Et c'est vraiment lui qui a parlé. Elle n'a pas parlé et il avait averti d'emblée qu'il ne répondrait à aucune, mais vraiment aucune question. Bon, on voyait que oui, il y avait une certaine nervosité chez M. Bissonnette. Vous l'aurez compris, être devant autant de caméras, autant de journalistes pour parler et s'exprimer, certainement qu'il s'emmène une certaine nervosité et aussi tout ce qui s'est passé dans les heures précédentes, parce que là, les plaidoiries aux représentations sur la peine à infliger à Alexandre Bissonnette sont officiellement terminées. Donc maintenant, le sort de son fils repose entre les mains du juge François Huot. Donc, vous voyez un peu, là, dans les derniers jours, il y a eu la couronne qui venait dire pourquoi il fallait infliger une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 150 ans. Et les avocats de défense, les avocats d'Alexandre Bissonnette, eux, ont dit pourquoi ce serait, selon eux, une juste peine que de lui infliger 25 ans avec possibilité de libération conditionnelle. Donc là, bon, voyez un peu dans quel contexte ça s'est fait, sur le contenu, sur qu'est-ce qui s'est dit lors de cette déclaration-là. Lors de la première minute, eh bien, Raymond Bissonnette s'est adressé davantage aux victimes, aux proches des victimes, à l'ensemble de la communauté musulmane. Il a dit comprendre la douleur qu'ils vivent. Il a regretté tout ce qui s'est passé. Et il a mentionné que lui et sa femme n'avaient pas été en mesure de déceler le mal qu'avait Alexandre lorsqu'il était plus jeune et avant qu'il commette justement l'irréparable. Et je vous inviterai à écouter maintenant ce qu'il avait à dire, parce que Raymond Bissonnette a assisté à l'ensemble des plaidoiries, à l'ensemble des représentations sur la peine, les témoignages des victimes, des proches des victimes, des membres de la communauté. Et il y en a plusieurs qui ont dit et qui l'ont répété, qui, selon eux, Alexandre Bissonnette est un monstre. Raymond Bissonnette, lui, voit son fils d'un tout autre œil.
Alexandre n'est pas un monstre. Les témoignages des psychiatres sont venus expliquer les causes probables de son geste, particulièrement l'intimidation subie durant des années à l'école. Une enseignante à la retraite, Mme Lucie Côté, qui ne pouvait rester silencieuse, est venue témoigner sur le harcèlement constant et particulièrement méchant dont Alexandre a été victime des années durant. Pendant toutes ces années, nos interventions auprès des directions d'école, des enseignants, enseignants, n'ont rien donné pour mettre fin à cette situation. Dans ses arguments devant le juge, la couronne a dit que tous les jeunes subissent de l'intimidation à un moment donné dans leur jeunesse et ne commettent pas de crime pour autant. Je pense que cette approche banalise la souffrance réelle causée par l'intimidation et en minimise les effets néfastes. Il est reconnu que l'intimidation débridée est une cause de troubles de santé mentale qui peuvent durer toute une vie et, dans certains cas extrêmes, mener au suicide et même à des gestes violents. Malheureusement, la condition mentale d'Alexandre n'a pas été détectée par nous, les parents, ni par les professionnels de la santé qui l'a consulté à maintes reprises. J'ai beaucoup aussi de difficultés à comprendre l'attitude de la Couronne d'avoir ignoré les problèmes de santé mentale d'Alexandre. Aucun examen psychiatrique n'a été demandé suite à son arrestation, malgré l'évidence de troubles de santé mentale dans ses propos. La Couronne s'est plutôt acharnée à démoniser par tous les moyens afin d'obtenir un emprisonnement de 150 ans, soit la peine la plus sévère jamais donnée au Canada. Cela équivaut en soi à une peine de mort, déguisée, et éteint la moindre lueur d'espoir, qui est source de la vie, l'espoir. Je soupçonne fortement que l'attitude de la Couronne est le résultat d'une volonté politique et non juridique. On sait maintenant que personne n'est à l'abri d'un drame lié à la maladie mentale. On ne le souhaite à personne. Cette terrible maladie n'a pas de couleur, pas de religion, pas de sexe. Il est impossible de prédire à quel moment de notre vie ou de n'importe quelle vie qu'elle peut nous frapper. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Et Jonathan, je sens beaucoup de culpabilité chez le père d'Alexandre Bissonnette. Le passage, moi en particulier, où il dit « On n'a pas été capable de détecter les problèmes de maladie mentale chez Alexandre, pas plus que les professionnels. » J'ai l'impression que ce sont des gens brisés. Là. Ces parents-là, ces deux personnes-là, oui. Ce sont clairement des gens brisés. Puis j'ai l'impression qu'il se dit « On aurait dû voir quelque chose avant, on ne l'a pas vu et ça a mené à un drame incroyable. » Mais il y a beaucoup d'émotions dans sa voix. Puis ça n'a tellement pas dû être facile de faire cette déclaration-là hier. Là.
Effectivement, il y a beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup d'amertume à l'égard de la Couronne.
Oui, c'est vrai.
Qui réclame 150 ans parce qu'il le mentionne à un certain moment. Il parle que la Couronne s'est acharnée à diaboliser son fils par tous les moyens. Donc, vous voyez un peu là ce qu'il pense du travail qui a été fait par les procureurs de la Couronne dans ce dossier-là. Bon, bien évidemment que ça a retenu l'attention hier, mais vous mentionnez que Alexandre Bissonnette a aussi pris la parole hier à la toute fin des plaidoiries, oui. Parce que c'est comme ça que ça se passe habituellement. Le juge se doit de demander au meurtrier ou au criminel avant de partir en délibéré ou de prononcer la peine s'il a des commentaires à faire. Et là, Alexandre Bissonnette a été amené dans le box des témoins. Il était tout vêtu de noir hier et il a dit, il a réitéré qu'il avait honte et qu'il regrettait, il s'est mis à pleurer. Il dit que quand il était très jeune, il avait des rêves, qu'il riait beaucoup et qu'il regrette que sa vie soit cause d'autant de souffrance et de peine pour tant de personnes. Et il a terminé en disant, je cite, « J'aimerais peut-être avoir une lueur d'espoir dans le long tunnel noir dans lequel je me suis perdu le 29 janvier. »
Ah non, ça a été une très, très grosse journée dans l'histoire d'Alexandre Bissonnette et de l'attentat à la mosquée hier. Les parents qui prennent la parole, effectivement, Alexandre Bissonnette qui a pris la parole. On dirait que ça a un petit peu plus passé dans le beurre, étant donné que toute l'attention était sur ses parents, mais c'est important de le mentionner parce que effectivement, il a parlé hier et sa dernière phrase était très, très forte en émotion aussi. On parle de... Parce que c'est très, très vrai. Là. Si on parle de aucune possibilité de libération avant 150 ans, c'est confirmé qu'il va mourir en prison, Alexandre Bissonnette, tandis que...
C'est ça. Et bon, le juge, maintenant, a la possibilité de lui donner 25 ans ou faire un cumul des peines. C'est une disposition qui est au code criminel depuis 2011. Et il a la possibilité de le faire, mais par bloc de 25 ans. C'est soit 25, oui. 50, 75, 100, 125 ou 150. Fait que, ça lui laisse cette marge de manœuvre-là, sauf que du côté de la défense, on dit que c'est pas une très grande marge de manœuvre parce que si le juge avait décidé que ça vaut 35 ans, puis 35 ans, ce serait suffisant, il peut pas. Oui. Ça va être soit 25 ou 50. À 25 ans, ben Alexandre Bissonnette pourrait ressortir à un âge, c'est vrai, là, il a actuellement 28 ans, donc oui. Si on fait le calcul
rapide, 53, là.
53 et dans le cas de 50 ans, ben là, on parle davantage de 78 ans. Là.
Ah ouais.
Fait que c'est complètement une autre histoire si c'est ça. Maintenant, vous mentionnez que le juge a dit hier que le prononcé de la peine sera rendu le 29 octobre prochain. Bien évidemment, ce sera grandement suivi. Et il a dit que, je vous dois à vous ainsi qu'à tous ceux touchés de rendre le meilleur jugement possible. J'aurai besoin d'une importante période de réflexion et de travail. C'est ce pourquoi il va y avoir un délai comme celui qu'il a demandé. Parce qu'initialement, il nous avait dit, le juge, que le prononcé de la peine se ferait en septembre. Mais là, on voit qu'il a besoin davantage de temps parce qu'il y a toute la question de la constitutionnalité du cumul des peines sur lequel il aura à se pencher. Ce sera un travail passablement délicat qu'il aura à faire.
Parfait. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été avec nous ce matin.
Au plaisir, bye.
Merci. En terminant ce segment-là, je veux vous lire des extraits de l'article du Soleil ce matin qui est écrit par Isabelle Mathieu parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans que je n'avais jamais lues avant. Ce sont pour moi de nouvelles informations et je pense que ça vaut la peine d'en parler parce qu'on apprend beaucoup plus sur l'enfance d'Alexandre Bissonnette dans cet article-là. Il y a beaucoup de détails sur la façon dont il a grandi à la maison et la relation qu'il avait avec son frère et ses parents. Donc, je vais vous lire quelques extraits. Donc, il faut savoir que les parents d'Alexandre Bissonnette ont rencontré le psychiatre de la Défense. La psychiatre, en fait, c'est la docteure Marie-Frédérique Allard. Ça s'est passé le 16 mars dernier. Et à ce moment-là, leur fils envisageait déjà de plaider coupable et c'est ce qu'il a fait 10 jours plus tard, d'ailleurs. Lors de cette rencontre-là, elle a parlé de l'enfance d'Alexandre Bissonnette et de son frère jumeau. Elle dit qu'ils ont grandi à Cap-Rouge. C'était des enfants faciles qui ont une gardienne à la maison jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, comme plusieurs autres enfants. Les frères jumeaux s'entendent à merveille et ils vont avoir une relation très hermétique, si bien que les parents vont insister pour qu'à l'école, ils soient dans des classes séparées, pour qu'ils puissent chacun trouver leur individualité, probablement se faire des amis chacun de leur bord, puis qu'ils soient pas toujours collés l'un sur l'autre et n'aient que eux-mêmes pour compter sur l'un sur l'autre.
Éviter le renfermement.
Exactement. Et donc, Manon Marchand, qui est la mère d'Alexandre Bissonnette, et Raymond Bissonnette, qui est son père, ils décrivent Alexandre comme le plus solide des deux frères, celui qui a le plus d'amis. Et ça, c'est particulier parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui a fréquenté la même école secondaire qu'Alexandre et son frère. C'est certain que c'était un âge un petit peu plus vieux. Peut-être que les choses ont changé, mais moi, c'était frère. Il me décrivait le frère parce que lui faisait partie des gens qui ont été témoins de l'intimidation dont Alexandre Bissonnette a été victime. Et il décrivait son frère jumeau comme le plus solide des deux. Il dit l'autre frère, même qu'à un moment donné, il a arrêté de se faire niaiser parce qu'il réagissait pas si elle l'atteignait pas. Tandis qu'Alexandre, il réagissait beaucoup plus et ça faisait en sorte que ça alimentait peut-être les intimidateurs. Donc, il dit que son frère jumeau, il avait ses amis, son petit groupe d'amis, puis il faisait ses affaires. Donc, peut-être que la tendance a changé au fil du temps parce que moi, la version que j'avais eue, c'était exactement le contraire. Donc, c'est particulier, mais là, on parle vraiment à un plus jeune âge. Donc, effectivement, peut-être que plus jeune, il était le plus solide des deux. Et ensuite, au fil du temps, Alexandre devient de plus en plus anxieux et hypochondriaque. Les parents doivent fréquemment le rassurer sur sa santé et parfois l'amener à l'urgence. De l'hypochondriaque, c'est quand vous pensez que vous êtes toujours malade. Il y a un petit bobo qui apparaît, vous avez mal à quelque part, ça doit être un cancer, une tumeur, un ci, un ça. On a toujours très, très peur des symptômes qu'on peut avoir. En juillet 2016, les parents vont forcer la main aux deux frères pour qu'ils quittent le nid familial. Ils ont présentement 28 ans, donc en juillet 2016, on peut soupçonner qu'ils avaient 26 ans ou autour de ça. À 26 ans, c'est vrai que c'est pas mal le temps de quitter le nid familial et les parents ont dû forcer la main aux garçons, donc peut-être un petit peu un problème d'indépendance ici et d'autonomie. Et donc, ils ont fini par quitter le nid familial, mais Alexandre fait fréquemment la navette entre son logement à Sainte-Foy et la maison familiale. Peut-être qu'il s'ennuie, ouais. Qu'il n'aime pas nécessairement vivre seul.
Ça a été rapporté souvent. Même.
Effectivement. Ouais. Raymond Bissonnette et Manon Marchand savent que leur fils n'est pas heureux, du moins jamais pour de très, très longues périodes. Le jeune homme se plonge souvent dans des photos et des vidéos du passé.
Nostalgique.
Oui, c'est ce qu'on a pu observer. Et finalement, ramenons-nous au soir du 29 janvier 2017. Alexandre Bissonnette soupe avec ses parents, son le savait. Il quitte rapidement la maison après le repas parce qu'il doit retourner au travail le lendemain et il dit qu'il ne veut pas attraper le virus dont sa mère est affligée. Donc, sa mère est contagieuse, elle a une telle maladie, je vais m'en aller tout de suite, je travaille demain, puis je veux pas l'attraper. Il part en disant qu'il ira à son club de tir. Ça avait été rapporté effectivement. Quelques minutes plus tard, par contre, Raymond Bissonnette, son père, l'appelle, puis il dit « Hey, le club est fermé en passant ce soir, tu pourras pas y aller. » Et Alexandre lui dit « Ah, oh, ben je vais aller voir quand même. » Raymond Bissonnette le rappelle après et lui demande de venir ranger ses armes à maison. Et Alexandre répond, garde, je veux être plus indépendant. Mon frère m'a conseillé d'être plus indépendant. Et il demande à son père de le laisser tranquille et il raccroche. Raymond Bissonnette n'aura plus de nouvelles de son fils et apprendra l'arrestation du tireur lorsque l'équipe tactique de la police débarque chez lui.
Allez.
Ça, ce sont les détails de ce qui s'est passé le soir du 29 janvier 2017. C'est ce qu'on apprend ce matin dans Le Soleil, sous la plume d'Isabelle Mathieu. Moi, c'est des détails que je ne savais pas. Et pas que ça change quoi que ce soit au drame qui est arrivé, là. Pas du tout. Mais moi, ce qui change pour moi ce matin, c'est le fait d'avoir vu et entendu les parents d'Alexandre Bissonnette. On dirait qu'ils sont devenus réels à mes yeux. Comme avant, on avait eu un communiqué seulement et on savait qu'ils étaient là. On avait hâte de leur parler. On avait hâte d'avoir de leurs nouvelles, de savoir comment ça se passait pour eux. Mais hier, on les a vus. Et pour moi, j'ai senti la douleur de ces gens-là. On dirait qu'à travers les paroles de son père, tu sens qu'il y a une frustration envers le système, premièrement. Ils semblent très fâchés envers la couronne parce qu'effectivement, la couronne a balayé du revers de la main toute possibilité de maladie mentale chez Alexandre Bissonnette, ou du moins, on l'a beaucoup banalisé. Moi, d'entendre la couronne dire au cours des représentations sur sentence que tous les enfants subissent de l'intimidation à l'école, puis ils deviennent pas tous des meurtriers pour autant. Ça, c'est complètement faux d'une part, et c'est beaucoup banaliser le degré d'intimidation qu'un enfant peut subir. Puis comme j'ai dit ce matin, moi, j'ai pas été victime d'intimidation. Fait que déjà, de dire que tous les enfants sont victimes, c'est faux. Et deuxièmement, c'est faux de dire que tous les enfants en subissent au même niveau. Se faire écœurer une semaine au primaire par une gang, puis que ça se finit après, c'est pas comme se faire écœurer pendant de longues années, de longues périodes, se faire frapper, se faire voler son lunch, se faire humilier à l'école. C'est certain et c'est prouvé, ça, par les médecins, que ça a un impact psychologique très, très grand. Donc, du côté de la couronne, peut-être un petit manque à ce niveau-là, mais je suis pas là pour juger leur travail de toute façon. Mais je sens que les parents d'Alexandre Bissonnette, ce point-là, ça les a beaucoup, beaucoup agacés. Je sens aussi beaucoup de culpabilité chez ces gens-là, de dire on n'a pas été capable de déceler la maladie mentale chez Alexandre Bissonnette et les professionnels qui l'ont consulté n'ont pas été capables non plus. Ça revient un peu à dire on aurait dû voir quelque chose en tant que parent et on l'a pas fait. Ça doit être un drame épouvantable pour des parents, surtout quand, dans le futur, ton enfant commet un crime comme ça, là.
On en parlait ce matin, ce sont des victimes collatérales et j'ai vraiment l'impression qu'ils vont avoir ça pour le reste de leur vie sur la conscience.
Ah,
tu poses des questions toute ta vie, tu te demandes ce que tu aurais pu faire, ce que tu aurais dû faire. Et en plus, tous les yeux sont rivés vers toi. On attend, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire?
Ouais.
Comment ils vont expliquer ça? Mais ce n'est pas à eux à expliquer ça, en fait. Vraiment pas.
Non.
Et je reviens sur un point que j'ai dit à l'ouverture de l'émission ce matin. Je trouve ça difficile de voir les commentaires envers les parents d'Alexandre Bissonnette parce que son père dit qu'il n'est pas un monstre, OK? Faut se mettre dans la peau d'un papa qui a un fils qui trouve que c'est un geste monstrueux.
Ouais.
Le geste est monstrueux. Il clame haut et fort que c'est dramatique.
Ah ouais, c'est sûr.
Que c'est horrifiant. Par contre, comment tu peux regarder ton fils et te dire c'est un monstre?
C'est
son geste est un monstre, mais lui a vu son fils toute sa vie, l'a vu grandir, l'a vu dans des bons moments, des moins bons moments. Ça doit être extrêmement difficile. Peut-être que pour certains, les mots employés ont été difficiles à entendre, parce qu'effectivement, c'est un geste inacceptable. C'est un drame que le Québec et le monde a vécu parce qu'il y a eu des répercussions mondiales. Mais je veux dire, moi, je comprends les paroles du père.
Faut pas oublier en fait que nous, on n'est pas attachés émotionnellement à Alexandre Bissonnette. On n'a aucun lien avec lui. C'est pas notre ami, c'est pas notre neveu, c'est pas notre cousin, c'est pas notre fils, c'est pas rien de ça. Là, ce sont les parents d'Alexandre Bissonnette qui se sont prononcés sur leur fils qui a commis 6 meurtres. Comment vous pouvez vous attendiez à quoi de la part de parents, je veux dire, qui détruisent leur fils sur la place publique, leur fils qui ont aimé pendant 28 ans, qu'ils aiment encore à l'heure actuelle.
Non, puis ils disent déjà que le geste est inacceptable.
C'est ça, en condamnant le geste, vous pouvez pas vous attendre à ce que les paroles des parents d'Alexandre Bissonnette à son endroit soit les mêmes que nous, on peut avoir envers Alexandre Bissonnette. Moi, j'ai aucun lien émotif avec ce gars-là. Je le juge sur ce qu'il a fait, sur la communauté musulmane et les meurtres qu'il a commis, et c'est tout. Tout ce que j'ai comme portrait de ce gars-là, c'est ce qu'il a fait.
Tu n'as un côté. Tu as juste un côté de la médaille.
Ben,
tu n'as pas le côté de la personne.
Puis, j'ai pas les émotions non plus. Lorsque les émotions embarquent, jugez pas leur réaction à ces parents-là. Moi, je trouve que leur déclaration a été super correcte. Ouais. Très correcte. Puis, depuis le début, ils ont offert leur sympathie, leur condoléance et leur compassion envers la communauté musulmane. Ils ont toujours rappelé que les premières victimes, c'était la communauté musulmane, mais à mes yeux, faut pas non plus oublier que ces deux personnes-là, ce sont des victimes, tout comme le frère jumeau d'Alexandre Bissonnette, qui, je vous le rappelle, va porter le visage du tueur pour le reste de sa vie.
Oui.
Ce sont des jumeaux identiques. Et d'ailleurs, j'espère que ce gars-là va bien aujourd'hui. On n'a aucune nouvelle du frère jumeau d'Alexandre Bissonnette. Les dernières nouvelles qu'on avait eues, c'était qu'il allait pas très bien, évidemment. Jusqu'à quel niveau, ça, je sais pas. J'espère qu'il va réussir à trouver une certaine paix et à vivre sa vie, parce que le frère jumeau d'Alexandre Bissonnette, tout comme ses parents, n'ont rien à voir avec le crime qu'Alexandre Bissonnette a commis. Il est 7h58, on s'en va à la pause. La grand-messe.